Bonjour.
Ou bonsoir.
Ici Chicha Maran.
Ici Poirlen.
Et bienvenue dans Parodienne Rhapsody. Aujourd'hui, premier épisode.
Kaamelott.
De Alexandre Astier. Kaamelott est probablement la série française qui possède derrière elle la plus grosse communauté de fans. Elle fut élevée au rang de culte, à la fois par une assez grande partie des téléspectateurs, malgré la mauvaise réputation des séries françaises, et par un grand nombre de geeks francophones, pour son aspect médiéval, comme pour son humour absurde très efficace.
Mais cette série est avant tout une parodie d'une des plus grandes légendes du folklore anglo-français, les Chevaliers de la Table Ronde. Analysons donc cette parodie qui semble de prime abord ne pas payer de mine.
Mais qu'est-ce que Kaamelott ? Kaamelott, c'est avant tout une série télévisée qui fut diffusée sur M6. Mais également une idée initiée par Alexandre Astier depuis 2003, et dont le processus créatif n'est toujours pas stoppé, comptant à l'heure actuelle 6 saisons appelées livres. Elle se place sur un ton d'abord totalement comique, avant de passer au tragi-comique, le point culminant de l'assombrissement de la série étant le livre 5. La diffusion de cette dernière se fit entre 2005 et 2009, concluant ainsi un arc narratif d'un scénario qui doit se conclure au cinéma, avec une trilogie de films. Mais tout d'abord, revenons un peu en arrière.
L'idée de Kaamelott est partie d'un court-métrage, Dies Irae. Datant de 2003 et durant 14 minutes, c'est la première apparition du concept de base de Kaamelott. D'ores et déjà dans celui-ci, les bases de ce qui sera la série sont posées, à savoir le détournement des légendes arthuriennes. Il a donc une double importance dans le cycle kaamelottien, ce qui explique d'ailleurs sa présence en bonus dans le DVD 3 du livre 1. En effet, déjà scénaristiquement, il explique pourquoi, dès le début du livre 1, le roi ne croit déjà plus en ses chevaliers, sauf en Lancelot. Mais son importance vient surtout de son caractère fondateur, car il a permis à Astier de vendre son idée à M6 et à Jean-Yves Robin et Kalt, qui deviendront les deux noms qui produiront la série. Le court-métrage en lui-même a été récompensé 4 fois, notamment par le prix du public du meilleur court-métrage francophone au célèbre festival Juste pour rire de Montréal en 2004.
Après ce court-métrage, donc, ont été commandés par Kalt, société de production déjà connue pour avoir été en charge de Caméra Café, une série de pilotes d'environ 5 minutes. Dans un second temps, une autre série de pilotes, encore plus courts, furent proposés à M6 afin de remplacer Caméra Café, cette dernière s'étant essoufflée. La chaîne fut conquise, et la première diffusion se fit le 3 janvier 2005. Le défi était alors de taille pour tous les responsables de la série, leurs prédécesseurs ayant marqué agréablement les esprits du public. La série devait donc rapidement faire ses marques, malgré son opposition scénaristique par rapport à Caméra Café, passant du banal à la légende, même si le ton humoristique est encore là. A posteriori, ayant vu l'évolution de la série, on imagine un second défi pour Alexandre Astier, à savoir réussir son coup et gagner la confiance de M6, pour pouvoir ensuite sortir de la case du format très court, plutôt restrictif, et faire des histoires construites et passer un format à l'américaine, de 45 à 130 minutes, étudié pour des structures plus complexes.
Heureusement pour lui, la série fut très bien accueillie par un public qui était, certes déçu de perdre leur rendez-vous caféiné, mais apparemment heureux de la nouveauté et de l'humour proposé par la série. Très peu de chiffres sont malheureusement disponibles compte tenu de la relative vieillesse de la série, la diffusion du livre 1 datant quand même de 2005. Malgré tout, on sait que la série a rapidement stagné à 5 millions de téléspectateurs, soit environ 16% de part de marché. Un très bon score qui explique en partie la liberté qu'avait Alexandre Astier sur Kaamelott, et donc par extension, pourquoi ce type de séries plutôt peu formatées sont rares en France.
Cependant, quelles sont les raisons que l'on peut évoquer afin d'expliquer un tel engouement par rapport à une série qui part de la table ronde ? D'autant plus qu'à l'époque, Alexandre Astier était encore un nom qui n'évoquait rien à une immense majorité de gens. Les hypothèses sont multiples. Certains diront que le schéma narratif classique, avec héros, anti-héros, etc., a séduit les téléspectateurs. D'autres diront que c'est l'humour couplé au fait que les personnages soient attachants, comme Perceval et Caradoc, qui ont propulsé la série. Je serais plus d'avis avec cette dernière théorie, car ce qui a fait connaître Kaamelott selon moi, c'est avant tout des répliques cultes qui ont fait mouche. Le fameux
Ouais, c'est pas faux.
Ou le
On en a gros
sont devenus des gimmicks de ralliement des fans de Kaamelott. Petite anecdote à ce sujet, je me souviendrai toujours de mon prof de maths de seconde, qui, pour tenter de nous expliquer un obscur chapitre, nous a dit
Ça fait rien, on va essayer avec les dés, de toute façon ce qui compte c'est les valeurs.
Rappel de Perceval, afin, lui-même, d'expliquer un obscur jeu du Pays de Galles à Caradoc et au Tavernier. Ainsi, Kaamelott a fait plus que gagner son public. La série fait maintenant partie du patrimoine français et a marqué toute une génération de gens, comme peu de séries l'ont fait. Quelle est la part du mythe arthurien qu'entretient la série ? Parlons plus en détail du contenu proposé par Kaamelott. Il s'agit d'une parodie qui se base sur la légende du Graal et de la quête du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Cette épopée légendaire fut écrite par Chrétien de Troyes, célèbre auteur étudié dans les écoles comme l'un des premiers romanciers. Ses écrits faisant partie à la fois du folklore britannique, mais aussi français, de par le territoire de Bretagne décrit dans les récits, avec par exemple la forêt de Brocéliande, qui se situe dans notre actuelle Bretagne française. Malgré tout, quelques rappels sont importants afin de bien placer la parodie par rapport à son matériel d'origine.
La majeure partie de l'histoire du roi Arthur se passe en Grande-Bretagne, dans le royaume de l'Ogre, territoire fictif qui correspond au sud de l'Angleterre actuelle. La période historique décrite se situe aux environs du 5e siècle après Jésus-Christ, même si diverses estimations sont discutées encore aujourd'hui. Les œuvres de Chrétien de Troyes, du cycle arthurien, racontent donc la mission divine qui fut confiée à Arthur Pendragon, fils bâtard de l'ancien roi de Bretagne Uther Pendragon, à savoir trouver le Graal. Pour ce faire, les dieux lui ont donné une épée magique, la fameuse Excalibur, l'épée des rois, lui permettant ainsi, malgré son statut de fils illégitime, d'accéder au trône de Bretagne. Durant cette dangereuse quête, il pourra compter sur de nombreux alliés qu'il réunira au château de Kaamelott, à savoir Merlin, son tuteur de toujours, considéré comme l'un des plus puissants druides et magiciens de tous les temps, fils d'un démon et d'une vierge. Également la fée Viviane, aussi appelée la Dame du Lac, l'intermédiaire entre les dieux et le plan terrestre. Mais aussi et avant tout de nombreux chevaliers venant de multiples contrées, qu'il unifiera autour de la Table Ronde et du royaume de l'Ogre. Leurs positions sociales sont multiples. Certains sont orphelins, comme Lancelot du Lac, d'autres déjà rois, comme Léodagan, roi de Carmélide. Grâce à tous ses alliés, il devra se confronter à de nombreux monstres légendaires et ennemis, comme Méléagan, sombre chevalier présenté comme le double maléfique du vertueux Lancelot.
Mais les légendes arthuriennes, c'est aussi une histoire d'amour légendaire. Celle du roi Arthur et de Guenièvre, la fille de Léodagan, qui est à l'origine du statut de la reine dans un très grand nombre d'œuvres culturelles, se faisant enlever de nombreuses fois par divers ennemis. Elle est également convoitée par Lancelot, même si dans l'œuvre originale, sa vertu lui empêchera de franchir le pas. A noter que dans certaines interprétations de la légende, le roi Arthur a un fils, Mordred, avec ses demi-sœurs Morgreuse ou Anna, sœur de la fée Morgane, selon grand ennemi et sœur du roi Arthur. Mordred est le symbole des valeurs pourchassées par l'Église, et causera la mort du roi Arthur lors de la bataille de Camlann, le faisant partir pour l'île d'Avalon, n'ayant malheureusement pas réussi à accomplir sa quête, malgré la bravoure de ses compagnons. Beaucoup de divergences, d'interprétations et surtout beaucoup d'histoires existent autour de cette légende, à tel point que chaque version en contredit une autre, et qu'il est très difficile de ne pas faire de mélange entre les différentes traditions, même si on reste très simple. Cependant, de tout ceci, qu'a gardé Alexandre Astier afin de construire sa parodie ?
Eh bien, Kaamelott reprend avant tout l'essentiel, sans trop s'encombrer de détails. Le cadre reste le même, le château de Kaamelott, le royaume de l'Ogre, la Bretagne, et il est toujours question de la chevalerie, de la Table Ronde et de la quête du Graal demandée par les dieux, supervisée par la fée Viviane, appelée plus communément dans la série la Dame du Lac, reprenant ainsi toutes les bases du folklore kaamelottien.
Par exemple, au niveau des personnages abordés, la série ne change quasiment rien. L'arbre généalogique d'Arthur reste le même, et son ascension au trône grâce à Excalibur également. De même que sa femme, Guenièvre, reste la fille de Léodagan, roi de Carmélide. De la multitude de personnages présents dans les diverses œuvres traitant de la quête du Graal, n'ont été gardés que les plus marquants et les plus connus du public, comme Lancelot, Perceval, Merlin ou Yvain. Au total, 10 chevaliers de la Table Ronde sont montrés à l'écran, et plus ou moins creusés durant la série. Même si la série cherche à simplifier, elle n'en oublie pas des têtes actes sur la généalogie et le passé ainsi que le présent des personnages qu'elle décide d'aborder. Certains personnages sont cependant modifiés dans leur forme. Méléagan, par exemple, n'est plus un chevalier, mais une sorte de dieu ou messager du dieu de la mort envoyé sur notre plan pour semer le chaos et la destruction suite aux fautes d'Arthur, au début du livre 4. La série réutilise également tout le bestiaire des créatures légendaires, dragons, hydres et autres atrocités que les chevaliers devront combattre au fil de leurs aventures.
Ah là par contre, je me suis pas foutu de vous. Des sacs d'or plein une pièce. Et pour garder le tout, une hydre à 6 têtes.
Une hydre à 6 têtes ?
Ouais, votre Altesse. Eh, moi j'ai déjà fait à 4 têtes, et ben c'était pas une soirée crêpe, j'aime autant vous le dire.
Kaamelott reprend aussi, voire même plus que l'œuvre originelle, tout le côté historique, avec de nombreuses références au peuple, à la situation géopolitique de l'époque, à savoir les invasions germaines, la présence d'Attila,
Victoire !
Et le progressif déclin de l'Empire romain et de son influence en Grande-Bretagne. Cela donne lieu à de nombreux épisodes se passant lors des campagnes de repousse des invasions ennemies, ou encore de dîners de négociation.
Non, il faut sonner la retraite, là. Tire, hein. Je suis désolé, si on va avoir une chance de sauver encore quelques hommes, il faut sonner la retraite.
Comme vous voulez, moi j'en me dégale.
Une guerre dont Astier ne nous montrera jamais les combats, et ce pendant les 7 saisons, ce qui est assez habile pour être souligné. Cependant, le côté historique est beaucoup moins précis que le reste. Même si cela est très anecdotique, les anachronismes restent malgré tout présents. De fait, si l'on se base par exemple à la situation par rapport à l'Empire romain, on placerait donc la série aux alentours de 400 après Jésus-Christ. En outre, les différences en termes de langage, qui sont totalement assumées, notamment les références à des choses pas encore présentes à l'époque, utilisées comme ressorts humoristiques, et qui ne peuvent donc pas vraiment être considérées comme des erreurs. On voit cependant que les armures sont trop sophistiquées pour l'époque, ainsi que les tenues du quotidien, qui font plus renaissance, même si on sent qu'un effort croissant a été fait sur ce point au fil des livres. Mais nous n'avons pas but ici de dresser une liste exhaustive des erreurs temporelles de la série, d'autant plus qu'elle n'a absolument pas la prétention d'être juste historiquement. Malgré tout, si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers les documentaires aux sources de Kaamelott, qui sont très instructifs sur le sujet, réalisés par Christophe Chabert en 5 actes, présents en bonus des livres 2 à 6 et des DVD intégrales.
Par extension au côté historique, Astier procède même ici à une caricature du côté surreligieux des légendes du roi Arthur. Replaçant sa série dans le contexte religieux en Bretagne à l'époque, à savoir le tout début de la christianisation, Astier moque la foi impérissable dont sont taxés les chevaliers dans l'œuvre originale, donnant leur vie pour un dieu qu'ils ne sont censés connaître que depuis très peu de temps, et auquel on peut imaginer qu'ils ne comprennent pas grand chose.
Franchement, vous êtes Joseph d'Arimathie. Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Dans quoi vous le récupérez le sang ?
Dans un bocal en choix. Déjà pour la contenance, je peux pomper un demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refermer le bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac.
Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal en choix.
Cette caricature de la foi se traduit également à travers le personnage du Ré Purgateur, interprété de manière magistrale par un Elie Semoun au plus haut de sa forme. Ponctuant ses phrases de...
Oh, 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 ça va, oui ?
Il ridiculise l'extrémisme religieux à travers les âges, que ce soit au 5e siècle ou de nos jours, et ce, quelle que soit la religion.
Ainsi, d'une manière générale, on peut dire que Kaamelott ne fait que reprendre les bases et idées principales du cycle arthurien, rendant ainsi accessibles ces histoires complexes au grand public de par une exactitude par rapport à ce qu'elle décide de traiter. Cela souligne le fait que des recherches assez poussées aient été faites afin d'avoir une parodie respectueuse de l'œuvre originale, tout en ne perdant au final que relativement peu de choses par rapport à une série qui aurait été plus compliquée en termes de relations entre les personnages. Mais malgré cette simplification, on note cependant que la série place quelques références plutôt pointues aux écrits de Chrétien de Troyes, ce qui témoigne de la qualité des recherches faites pour écrire la série.
En effet, certaines répliques abordent, même de manière légère, certains rouages scénaristiques que seuls ceux qui ont lu les œuvres abordant les légendes arthuriennes peuvent comprendre complètement. Un exemple parmi d'autres, dans Aux yeux de tous 2, Lancelot croit reconnaître la Dame du Lac.
C'est elle ?
C'est elle.
C'est la Dame du Lac, n'est-ce pas ?
La Dame du Lac. Où ça ?
C'est incroyable, son visage m'est familier.
En effet, dans les légendes arthuriennes, cette dernière n'est autre que la fée Vivienne, alias la tutrice de Lancelot, qui l'a recueillie après la mort de son père, le roi Ban, et qui l'a élevée. C'est d'ailleurs là d'où vient l'origine de la seconde partie de son nom, Lancelot du Lac. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la question du père de Lancelot est évoquée plusieurs fois dans Kaamelott, et fait même office d'une mini-trame scénaristique du livre 3. En effet, dans l'épisode Le Porte-Bonheur, Lancelot évoque à Caradoc l'origine de son couteau fétiche, comme étant le seul héritage de son père, le roi Ban. Par la suite, dans Les Cousins, Caradoc vend indirectement la mèche et révèle ainsi les affiliations familiales entre Bort et Lancelot.
Le cas de Perceval est également sujet à de nombreuses références plus fines que les simples bases du folklore arthurien. On en retrouve deux principales. Dans Excalibur et le Destin, il est dit que Perceval semble avoir un destin plus prestigieux que celui d'Arthur.
Alors, j'ai un message pour vous de la part de la Dame du Lac.
Ah mais vous l'avez vu finalement ?
Non, taisez-vous, parce que là ça... Chut, voilà. La Dame du Lac me charge de vous dire que vous, alors plutôt vous, visiblement, seriez susceptible d'accéder à une destinée hors du commun.
J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, c'est...
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Cela est lié à un autre épisode, Dream On, où le cauchemar d'Arthur est de voir Perceval perdre le Graal dans le service de verre disposé sur la table de la taverne afin de fêter sa victoire.
Allez, patron, un dernier, ce filoche.
Dites, je vous le plains pas, là, mais je sais pas si vous allez retrouver le chemin du château. Là.
Attendez, aujourd'hui, j'ai trouvé le Graal ! Je peux bien m'en jeter un petit pour fêter ça, non ?
Bah allez, comme vous voulez. Allez.
Merde, c'est lequel ?
Comment ça ?
Le Graal, c'est lequel ? J'avais posé là.
Ah bah j'en sais rien, moi.
C'est pas vrai, c'est tous les mêmes.
Bah sûr que c'est tous les mêmes, ils viennent du même service.
Il y en a un qui est pas à vous ! Il y en a un, il file la vie éternelle !
Merde.
L'ensemble de ces deux points scénaristiques font référence à Perceval ou le Conte du Graal, dans lequel Perceval rencontre le roi pêcheur, appelé aussi le roi blessé, l'homme qui protège le Graal dans le château qui l'abrite. Pendant qu'il s'entretient avec lui, il voit passer le Saint Graal et la Sainte Lance, mais de par son éducation qui lui fut donnée par un noble de la cour, n'ose pas poser de questions à ce sujet, la jugeant impertinente. Plus loin dans le livre, il apprend que sa question aurait pu sauver le roi pêcheur et cherche donc à réparer son erreur afin de terminer la sainte quête. Cependant, c'est là où l'œuvre s'achève, Chrétien de Troyes n'ayant pas pu la finir. La référence est assez bien transcrite dans l'univers de Kaamelott, puisque dans la série, ce n'est pas plus son éducation qui lui fait défaut que son alcoolisme. Malgré tout, cela laisse présager quelques pistes intéressantes pour la suite de Kaamelott, car, par extension, on peut considérer que le roi Arthur est l'éducateur de Perceval dans la série. À suivre, donc. Ainsi, je pense qu'on ne peut que s'incliner devant la finesse des recherches et de leur intégration dans la série. À la fois reprenant les bases, sans aller trop loin pour que cela reste accessible à tous, Astier cherche cependant à faire plaisir aux spécialistes en parsemant la série d'éléments plus pointus, qui restent très bien intégrés compte tenu des différences profondes dues à son statut de parodie. Mais, encore mieux, il ne se limite pas à l'œuvre originale, en nous proposant un panel de références également très intéressantes à étudier.
Nous avons vu que la série est extrêmement riche en références par rapport au cycle arthurien. Il en est de même pour les références extérieures. Nous ne pouvons donc être exhaustifs. Cependant, essayons de nous placer d'un point de vue global. Tout d'abord, il est important de rappeler que les légendes de la table ronde sont très liées au genre du médiéval fantastique, qui est, par extension, un des genres favoris, avec les SF, des œuvres présentées dans le grand ensemble de ce qu'on appelle communément la culture geek. Or, il se trouve qu'Alexandre Astier est très friand de cette culture, et cela se ressent pas mal dans l'écriture de la série. En effet, l'aspect héroïque fantasy est assez poussé dans la série, déjà par tout le bestiaire présent, fortement inspiré de diverses œuvres culturelles de ce genre, mais également avec le système quête donjon récompense, que l'on retrouve assez clairement dans certaines scènes du premier livre de la série. On note également des similitudes par rapport au rôle des personnages durant ces missions, avec le soigneur, le druide Merlin, un éclaireur, un guerrier, en général Arthur, les autres ne savant lire se battre, à l'exception de Lancelot. Cela a donc permis à Astier de créer une situation type, que beaucoup ont déjà vécu s'ils ont déjà joué à un MMORPG. Un gars haut niveau qui doit se démener pour faire level up ses camarades qui n'ont pas encore compris toutes les mécaniques du jeu.
Sortez-vous les doigts du cul !
Le parallèle est donc, même s'il est assez évident, plutôt bien trouvé.
L'heroic fantasy n'est pas le seul aspect évoqué de la culture geek dans Kaamelott. La série propose un éventail assez large de références diverses, même si la plupart sont un peu trop fanservice pour être véritablement pertinentes. Nous avons donc des relations faites entre les arches de transport et la Stargate de la série éponyme, ou encore les épées laser de Star Wars et Excalibur d'Arthur. Cette dernière ne m'est pas indifférente, puisqu'elle fait elle-même écho à une référence de George Lucas dans Star Wars, le Conseil et les Chevaliers de Jedi étant assez liés aux Chevaliers de la Table Ronde. Le parallèle entre les deux œuvres est donc assez juste. Mais les références ne s'arrêtent pas non plus à la culture geek, et vont même bien au-delà. Assez anecdotique, de nombreux titres d'épisodes sont repris de films américains ou français, en faisant parfois des mini-parodies. De fait, le nom donné au thème musical et scénaristique de la déchéance lors de la fin du livre 4, Le désordre et la nuit, est repris du film éponyme de Gilles Grangier, même si l'hommage semble plus tourné vers le second nom, le dialoguiste, à savoir Michel Audiard, auquel Astier voue un culte tout particulier. Lors de ce même arc scénaristique, on retrouve une énorme référence à un célèbre passage du film Heat. La ressemblance est frappante.
On est ici, tous les deux. Toi et moi, comme deux types vraiment ordinaires, toi tu fais ton truc, comme tu le sens, et de mon côté je fais la même chose. Et bien qu'on soit vu face à face. Si je suis là-bas, et si je dois te neutraliser, ça me plaira pas. Mais je le ferai. Si j'ai à choisir entre toi et un pauvre malheureux qui a une femme dont tu t'apprêtes à faire une veuve, mon pote, je serais forcé de te descendre.
Vous savez, on est là tous les deux. On boit un coup, comme deux cons standards. Qu'est-ce qui se passera le jour où on se tombera dessus et où je devrais vous fumer? Ça me fera pas plaisir. Mais entre vous et le Graal, la lumière pour tous les peuples, j'hésiterai pas une seconde.
Mais il y a le revers de la médaille, comme toujours. Parce qu'admettons que je me retrouve coincé, et que moi, je dois te descendre. Quoi qu'il arrive, jamais je te laisserai me barrer la route. On s'est vu face à face, c'est vrai. Mais crois pas que j'hésiterai. Pas l'ombre d'une seconde.
Il y a le revers de la médaille. Si on tombe sur le Graal et que je sais que vous allez le partager avec vos pantins de chevalier véreux, je vous dérouille. Sec et net. Et ça me fera pas plaisir non plus.
À noter que la totalité de la série Kaamelott est dédiée à Louis de Funès, le personnage du roi étant une sorte de référence quasi constante au personnage type joué par de Funès dans ses films ou pièces de théâtre, l'homme en colère face à l'idiotie des personnes qui l'entourent.
Il est également intéressant de voir que la série évoque le théâtre et la poésie, et ce de manière assez profonde, le personnage du roi Arthur se disant ne pas aimer les arts représentatifs, de par la manière dont ils sont représentés à son époque. Son argumentaire est assez pertinent. Dans Guenièvre et Euripide, la reine doit jouer le personnage de Cassandre dans Les Troyennes d'Euripide, célèbre tragédie grecque.
Quoi? Qu'est-ce que vous soupirez? J'ai encore rien dit.
Non, déjà sans rien dire, c'est chiant.
Bah, Cassandre est une folle, j'interprète la folie, je vois pas ce qu'il y a de chiant.
Mais Cassandre, c'est pas une folle, déjà. C'est une pitié.
Quoi?
C'est une pitié. Un médium, quoi. C'est, elle voit l'avenir.
Oui, mais bon, un médium, on peut bien considérer qu'elle est un peu... Non?
Ouais. Oui, enfin, encore une fois, je vois pas le rapport, mais bon, alors mettons, d'accord, ok, elle est folle. Et alors?
Et alors quoi?
Et alors, c'est, voilà, c'est tout ce que vous avez trouvé. C'est ça tout le crédit que vous donnez aux fous, ils sont dépeignés.
Par le biais de l'hilarante, mais très superficielle interprétation de Guenièvre, et grâce au conseil que lui donne le roi, Astier évoque ici le fait qu'on ne vienne pas au théâtre pour y voir des simulacres de personnages, dont un aspect ou une apparence est seulement présente, mais bel et bien un être humain dans toute sa complexité émotionnelle. Un message certes relativement évident, mais qui est toujours agréable de rappeler et d'entendre dans une série télévisée, à l'heure où des téléfilms plats et des stand-up pour certains insipides. La même volonté de mettre les émotions au centre de tout le processus artistique est également faite avec la poésie. Dans le poème, Guenièvre, encore elle, a du mal à apprendre un poème qu'elle a choisi, avant tout car elle ne comprend pas ce qu'elle raconte, mais également de par le manque de profondeur du texte choisi.
Le vent, pareil à l'enfance, se joue de l'arbre moqueur.
Le vent, pareil à l'enfance, se joue de l'arbre moqueur?
Oui, ben.
Ben c'est nul. Nul, 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 zéro.
Le roi évoque donc les limites de ce qu'on appelle la licence poétique, et met en garde contre les platitudes mélancoliques, tout en rappelant, en citant un poème de Mao Rohan, que la poésie doit avant tout exprimer des sentiments vrais et partagés par son lecteur, qui devient donc ainsi plus que le lecteur, mais partisan de ce qu'il raconte.
Au printemps, le sommeil ne cesse dès l'aurore. Partout se font ouïr les gazouillis d'oiseaux. La nuit s'achève enfin dans le souffle des eaux. Qui sait combien de fleurs seront tombées encore ?
Ah bah oui, là bien sûr, c'est sûr, c'est du Shinto, hein. Les mecs, ils se raclent un peu la soupière avant de sortir n'importe quelle connerie.
En sa qualité de musicien émérite, Alexandre Astier a également décidé de développer dans Kaamelott quelques gimmicks musicaux, reprenant « Belle qui tient ma vie », une pavane du XVIe siècle écrite par Toineau Arbaud dans de nombreux épisodes. Le repos du guerrier, l'ivresse, la quinte juste, la foi bretonne.
Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, qui me la me ravie d'un sourire ravieux. Viens-t'en me secourir, ou me faudra mourir.
Ou la cultissime comptine À la volette. Dans À la volette, la quinte juste, le dialogue de paix 2.
Et me marier sur un oranger, et me marier sur un oranger. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un orange.
Sans oublier l'hommage musical rendu à De Funès avec la poignante scène finale du dernier livre où l'on peut entendre la musique du générique de Joe, de Raymond Lefebvre, où la musique colle très bien à la fin de la Dépression et au début de la Renaissance du roi. Un exemple parfait de référence excellemment maîtrisée. Dans un registre affilié, analysons une autre forme de musicalité qui donne lieu à quelques références pointues disséminées par Astier, contenues dans les prières du Père Blaise. En effet, dans la série, on en entend divers extraits, celui le plus repris étant la phrase
« Vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis »
tirés des litanies de Lorette, qui sont en quelque sorte des gimmicks religieux, phrases désignant ici le Graal et signifiant « vase spirituel, vase de l'honneur, vase unique de dévotion ». Vous pensez que le référent s'arrête là ? Eh bien non, Astier va encore plus loin lors de l'épisode « Le code de chevalerie ».
Mais je croyais qu'on y avait droit à ça, l'article 7 de je sais pas quoi là.
Ah, alors attention, Père Blaise s'il vous plaît, l'article 7.
Qui sort mon corps, m'a été flael, sonc forcil qui m'a de pucelle, out ma mystier encore nul genre.
Voilà, ça répond à votre question.
Du coup, on n'y a plus droit.
Vous voulez qu'on vous relise l'article ?
En effet, désigné comme du vieux celtique, il s'agit plutôt de vieux François, et même plus exactement d'un extrait de Tristan de Bérulle, poète normand du XIIe siècle, et dont la signification, une fois traduit, n'a absolument rien à voir avec un quelconque code de chevalerie. Il est ainsi impressionnant de voir à quel point l'auteur a été pointilleux sur les détails, allant même jusqu'à nous proposer des choses aussi obscures à une écrasante majorité de la population que des poèmes du Moyen-Âge.
Au final, que des références présentes dans cette parodie qui semble au premier regard assez simplette. L'écriture de la série est vraiment empreinte de la culture de son auteur, qui nous transmet ses goûts tout en étant majoritairement pertinent et juste dans la manière de nous les présenter. Ne tombant qu'assez rarement dans le fanservice pur, principalement car le public visé par la série devait être très large, il se sert également de références afin de faire passer divers messages sur le théâtre ou la poésie. Enfin, on note avec curiosité qu'il existe plusieurs niveaux de références par rapport aux légendes de la table ronde. Afin que le grand public puisse en capter un certain nombre, mais que les spécialistes, de la littérature médiévale par exemple, puissent aussi être contentés. Une initiative trop rare qui en est d'autant plus soulignable. Mais tout ceci ne serait rien si la parodie n'avait pas un but précis. En effet, et on l'oublie trop souvent, chaque détournement a un intérêt particulier, afin de mettre en lumière tel ou tel aspect de l'œuvre originale, en la caricaturant, ou en modifiant telle ou telle chose. Ainsi, à quoi sert Kaamelott par rapport aux légendes arthuriennes ?
Comment la mise en dérision permet-elle à Astier d'imposer sa vision réaliste de la légende ? Tout d'abord, il est important de noter le type de langage utilisé par les personnages à l'intérieur de la série. Il s'agit d'un français de type contemporain, populaire, mêlé à des expressions un peu plus moyenâgeuses qui permettent ainsi à la série de créer régulièrement un décalage entre les situations vécues et le langage. Mais cet anachronisme possède aussi des aspects plus intéressants. Déjà, l'utilisation du français actuel permet aux éventuelles critiques et caricatures effectuées de sortir de la période traitée et de traverser ainsi les âges, afin de pouvoir y retrouver plus facilement certains problèmes qui existaient peut-être déjà à l'époque, mais qui sont toujours d'actualité car ils font partie de la nature humaine.
Bien sûr,
Mais je prends un exemple tout à fait au hasard. Est-ce que l'homosexualité est quelque chose de répandu chez vous? C'est...
Je sais pas. Plus qu'ailleurs, je suppose.
Ah non, parce que nous, figurez-vous que... Alors nous, on state, hein, pour savoir si on doit l'autoriser ou l'interdire.
L'interdire? Pourquoi faire?
Ah bah voilà, et bah c'est exactement ce que je leur dis. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on l'autorise et même qu'on l'encourage. Va!
Également, cela permet plus de naturel, dans notre manière en tant que spectateur, de percevoir l'œuvre et donc, par conséquent, d'augmenter le potentiel réaliste de cette dernière. Car croyez-moi, mais quand on a des films à côté comme Perceval de Galles, où Lucchini passe tout le film à sortir des octosyllabes, on a du mal à vivre l'histoire pleinement. De plus, comme vu précédemment, la série a déjà une volonté de simplifier très clairement tout le bazar que représentent les récits de la table ronde, en passant avant tout par la réduction au strict nécessaire des personnages repris. En effet, seuls les plus emblématiques sont ici présents, permettant ainsi de nous familiariser avec eux et de comprendre plus en profondeur leurs enjeux au sein du scénario, mais également de mieux cerner leur caractère. Cette familiarisation est d'ailleurs appuyée par le format évolutif de la série. Les quatre premiers livres sont au format très court, présentant des tranches de vie des personnages. Cela nous permet d'être, au bout des quatre premières saisons, relativement à l'aise avec les traits de caractère de chacun, et de pouvoir ainsi entamer le vrai début d'un scénario dès la fin du livre 4. Tout cela est essentiel dans la compréhension complète des caricatures effectuées au niveau des personnages principaux.
Si on analyse un peu quelles sont ces caricatures, avec par exemple Léo Dalian, qui est sanguinaire et surdéfensif.
Le roi mange pas avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce genre?
Quoi, il vous manque?
J'aurais plutôt pensé que ça vous ferait plaisir.
Ça me fait plaisir parce que je peux pas le blairer, mais ça se fait pas.
Ou Perceval, qui, même si elle veut bien faire, a toujours du mal à comprendre les enjeux de ce qu'on lui demande.
Bref, alors nous, quand on va arriver dans la plaine, le seigneur Calogrenant pourra lancer une attaque surprise par la droite.
Plutôt dans le sens du courant de l'arrière, alors.
Non, ça, je ne sais pas vous dire ça.
Bon, et en dernier recours, Léo Dagan se tient prêt avec 150 cavaliers qui arriveraient par la gauche.
Par la gauche?
Par la gauche, oui.
Non, mais par rapport au courant de la rivière.
Ben, j'en sais rien, moi.
Mais qu'est-ce que vous venez emmerder le monde avec votre rivière, vous?
Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil, ça, mais moi, il me faut du concret.
On retrouve, au final, les limites de la vision utopique et binaire que nous proposent les légendes de la table ronde de Chrétien de Troyes. Dans l'œuvre originale, tous les chevaliers sont pieux, et ne sont obnubilés que par le Graal, duquel ils comprennent tout, même les éléments merveilleux. Et qui n'ont soit aucun défaut, ou quasiment aucun, soit sont des maroulins qui n'ont que pour seul intérêt de kidnapper la reine. L'épisode Legenda est très significatif de ce grossissement des personnages. Dans celui-ci, le roi raconte à un neveu de Caradoc, pour l'endormir, une histoire qui est la sienne, et celle des chevaliers de la table ronde. Ces derniers sont caractérisés par des animaux, l'ours, le cerf, le faisan, qui sont, dans l'imaginaire collectif, liés à certains aspects de la psychologie humaine. De par ce procédé assez anthropomorphique, qui est assimilable à une mise en abîme, on observe donc que Astier, comme le roi dans l'épisode, utilise ce principe afin de pouvoir exprimer le message général de la parodie de la table ronde que représente Kaamelott.
Parce que, paradoxalement, toutes les caricatures des personnages sont au final des moyens de tendre vers une vision plus réaliste de ce qu'aurait été une vraie quête du Graal au 5e siècle. Car ce que nous montre la série, c'est bien des personnages qui semblent plus humains. De fait, à l'époque, le niveau d'éducation, religieuse ou autre, surtout en ce tout début de christianisme, est faible. La Bretagne est en effet encore à l'époque une région très agricole, contrairement à l'Empire romain, relativement plus développée au niveau de ses technologies. Ceci explique ainsi le contraste voulu entre le roi Arthur et les autres chevaliers. Par conséquent, dans ces conditions-là, comment faire comprendre à quiconque la notion de Graal, de sainteté, de chevalerie et de noblesse ?
Vous êtes autour de la table ronde. Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire. Ces réunions sont sacrées, bon sang. Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Rien ne doit se mettre en travers de notre communauté.
Excusez, c'est juste pour vous dire que je vais pas pouvoir rester aujourd'hui. Faut que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse. C'est le vrai merdier.
Comment faire en sorte que la religion soit un moteur pour eux?
Je veux dire comme peur, quoi, j'ai pas l'impression qu'il en est.
Eh ben, les guêpes.
Quoi, les guêpes?
C'est même pas vrai.
Dès qu'il y a une guêpe qui lui tourne autour, il a peur qu'elle lui rentre dans la bouche.
Si elle pique dans la gorge, on peut mourir, je vous ferais dire.
Voilà, alors du coup, il se met en apnée. Souvenez pas de la fois chez son grand-père, il devenait tout bleu, on savait pas ce qu'il avait.
Oh, mais c'était ça!
Le cousin de Gauvin, il s'est fait piquer, il a fallu lui ouvrir le cou pour qu'il puisse respirer.
Mais qu'il n'en devienne pas aveugle. D'autant plus que, le contexte historique le montrant, la quête du Graal doit souvent passer après les multiples invasions des Germains, sans parler de la décolonisation romaine. C'est de la difficulté de la réalisation de ces problématiques que la série traite, Kaamelott étant définitivement une vision plus rationnelle de la légende. Cela se note également dans les quelques personnages créés pour la série. La femme de Léodagan, Dame Célie, les servantes, les maîtresses du roi, ou encore les paysans Guetno et Ropars. Tout cela montre encore une fois une volonté de rajouter un aspect moins idyllique, nous présentant au contraire tout le spectre social, avec ajout de femmes et d'agriculteurs. Qu'aurait donné la série si, comme dans les récits de Chrétien de Troyes, la mère de la reine n'avait pas été présente, ou encore les paysans ? La série aurait définitivement manqué de quelque chose. Avec ses ajouts, la série complète ainsi la cour du château pour mieux nous illustrer la vie sociale que l'on peut imaginer.
Car même si c'est l'une des choses que l'on reproche le plus à la série, même dans les choix des tranches de vie, on retrouve cette même volonté d'être plus humain et moins légendaire. On a beaucoup plus de scènes de conflits, familiaux, de couples, entre collègues. Ce qui permet à la fois de confronter les personnages à leurs propres défauts, mais également de relativiser les caricatures. Puisque ces dernières sont plus mises en avant en tant que caractère fort, entraînant ainsi ce grand nombre de disputes. Si Guenièvre n'avait pas été aussi potiche, le roi aussi impatient et défaitiste, leur vie de couple serait certainement plus tranquille, mais également beaucoup moins drôle à suivre. Cela est donc une manière de plus afin de contraster avec le manque total de réalisme inhérent aux légendes. Ceci est d'ailleurs montré par l'intermédiaire du personnage du père Blaise, qui, assez désemparé par le manque d'épique de la majorité des récits faits autour de la table ronde, doit avec ça écrire la légende.
Moi, à la limite, ce que je peux mettre, c'est qu'ils ont rencontré les hindous. Ouais, non, même pas.
Peut-être si vous forcez sur le côté exotique, mystère, machin...
Oh, non, je suis désolé, hein. Moi je peux pas faire une légende avec un vieux qui enroule sa bite sur un bâton.
Une mise en abîme encore plus croustillante lorsqu'on a le message initial de la parodie en tête.
Il est aussi intéressant d'aborder le sujet du personnage de Lancelot et du roi. En effet, ces derniers semblent au premier abord inexplicables. Ils sont cultivés, sont les seuls à comprendre un peu la quête du Graal et à avoir les moyens d'écrire un début de légende. En bref, ils se placent dans une position assez proche du Lancelot et du roi Arthur de l'œuvre originale. À quoi servent-ils donc ? Eh bien, ils semblent être, comme dans une expérience scientifique, des sortes de témoins desquels on regarde les évolutions dans ce monde par rapport à des caractères assez opposés, Lancelot étant plus déterminé qu'Arthur, qui lui est plus altruiste.
Vous n'êtes pas de taille à mener la quête du Graal, vous n'avez pas les épaules. De plus, comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, ceux-là, s'ils pouvaient parler. Enfin bref, voilà, je m'en vais. Je vais me débrouiller tout seul. Et même tout nué sur un pied, j'irai toujours 100 fois plus loin que vous et votre risible compagnie de crétins.
Cette expérience quasi naturaliste devient le principal élément abordé à partir de la fin du livre 4, même si la montée en puissance est déjà initiée depuis le livre 2 jusqu'au dernier épisode du livre 6, expliquant ainsi le passage au tragicomique à partir de ce moment.
Car oui, une fois que l'on a conscience de tout ceci, ce changement de ton, jugé brutal par beaucoup, est tout à fait logique. De fait, il est vrai qu'en France, comme ailleurs, il est rare qu'une série décide de changer autant entre deux saisons, à savoir entre le livre 4 et le livre 5. Changement de format qui entraîne un vrai développement scénaristique et surtout un changement de ton, qui à l'époque en a dérouté plus d'un. On note d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, beaucoup de fans de Kaamelott de la première heure se sont arrêtés à la fin du livre 4, car sûrement moins attirés par la réduction des scènes purement comiques au profit d'une ambiance parfois très sombre, couplée à une musique très intense, ce qui rend le premier visionnage du livre 5 toujours assez déprimant. Cependant, il reste dans la continuité de la parodie, qui devient alors plus sérieuse.
De fait, le personnage du roi Arthur dans la série est quelqu'un qui a la position la plus compliquée, et qui a également le plus tendance à la dépression, de par sa position, marié à une femme qu'il n'aime pas, entouré de personnes peu compétentes, et qui critique ses moindres faits et gestes. Lancelot, quant à lui, est un personnage solitaire qui cherche à avoir le Graal à tout prix, mais qui a très vite compris qu'il n'y arriverait, selon lui, jamais à l'obtenir avec l'aide des chevaliers de la Table Ronde. Les deux seules choses le retenant à Kaamelott étant son amour pour Guenièvre et sa sympathie pour le roi, qui n'a fait que décroître durant les trois premiers livres, de par leur divergence de caractère.
Or, on voit également, dans le livre 4, qu'ils essayent de se battre avec des mauvaises armes contre leur malheureux destin. Lancelot décide d'amorcer un mouvement séparatiste et avoue son amour à Guenièvre. Cette dernière décide de le rejoindre après avoir découvert la relation qu'entretient le roi avec Mévanouille, la femme du chevalier Caradoc, et qui, selon la loi, doit le tuer afin de pouvoir se marier avec elle et vivre pleinement son amour avec cette femme qu'il aime vraiment. Ces deux événements résulteront le début de la décadence, entamée par l'arrivée sur le plan terrestre de la Dame du Lac, Banni, et accentuée par l'arrivée de Mélagan.
Mais chez vous, on m'appelle la réponse.
La réponse ?
Oui, ma petite fée, la réponse à votre...
Pathétique désastre.
Personnification d'un des thèmes classiques de la tragédie, la fatalité. Voilà la situation au livre 4.
Le livre 5 est donc parfaitement dans la continuité et montre la fin de la décadence d'Arthur et de Lancelot, suraffichée par un aspect beaucoup plus sombre des costumes, du maquillage et évidemment du ton donné. Ce n'est donc pas comme si la vie des deux personnages principaux était passée du jour au lendemain du bonheur complet à la plus totale et profonde mélancolie. Cela fait d'ailleurs plaisir de voir une série humoristique qui s'assume jusqu'à la fin et qui n'a pas peur d'aller au bout de ce qu'elle propose. Un comique basé sur des disputes et des contrastes intellectuels devrait forcément comporter un passage important où le héros est en phase de dépression, car c'est comme ça que n'importe qui réagirait. Et c'est d'ailleurs une caractéristique qui revient souvent dans les œuvres qui ont pour base ce genre de comique. Le Dîner de cons, par exemple, est totalement dans le même registre. Mais le livre 5 n'en oublie pas d'être drôle.
Avec votre dégaine de crevettes, faites gaffe à pas vous faire bouffer par un mérou.
Certes, le taux de blague à la minute est moins important qu'avant. Cela est dû, déjà, au changement de format, mais également à l'apparition d'un comique plus travaillé et plus fin, qui est plus dans les gags fil rouge, avec la création des clans de Perceval et Caradoc et de celui d'Yvain et Gauvin. Il en reste que l'avis de certains est compréhensible, car il est évident que la série devient automatiquement moins drôle à partir du livre 5. Mais il ne me semble pas que ce soit un choix inexplicable, ni même stupide, pour les raisons évoquées précédemment.
Enfin, il est vrai que nous n'avons pas trop évoqué la gestion du livre 6. Pour moi, il s'agit plus d'une facilité scénaristique, qui est en majeure partie, sauf pour le dernier épisode, dispensable. Et qui sert à montrer comment le roi en est arrivé là dès le livre 1. Le scénario nous montre qu'il n'a jamais pu vraiment prendre sa vie en main, même lorsqu'il était soldat à Rome, et qu'il fut au fond la victime du système militaire romain qui le propulsait roi pour de mauvaises raisons, et devant se marier de force avec une inconnue, devant par ailleurs oublier son amour de toujours, et donc, par conséquent, se marier pour de mauvaises raisons. Le dernier épisode, quant à lui, amorce ce qui sera à mon avis le point d'orgue des éventuels futurs films, à savoir la renaissance d'Arthur, qui, ayant tout perdu, a pu enfin voir clair sur sa situation, illustré par son retour de mémoire sur sa première rencontre avec Excalibur et la rédemption de Lancelot.
Ainsi, la continuité de la série est bel et bien caractéristique du message que nous avons dégagé de la parodie au cours de l'émission. Montrer un visage certes plus caricatural, mais au fond plus rationnel, de ce qu'aurait été la réalisation de la quête du Graal avec les bases données par les écrits de Chrétien de Troyes. Le choix est pertinent puisque c'est un récit qui n'est pas vraiment totalement fictionnel puisque beaucoup semblent vouloir le rattacher à tout prix à l'histoire de la Grande-Bretagne.
Reste à savoir ce que Astier nous proposera comme finale à cette œuvre, qui, derrière ses allures basiques, est au final plus abouti qu'un bon nombre de parodies, qui se contentent juste de tourner en ridicule sans vrai fondement, ni recherche. Voilà donc à quoi peut ressembler une parodie à la fois sérieuse dans sa réalisation et dans son fond, mais qui n'en oublie pas d'être drôle et détendue dans sa forme et dans une partie de son contenu. Un exemple qui devrait inspirer bon nombre de parodies, et plus généralement de comédies françaises, souvent insipides.